vagabonde.
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 Bonjour à tous, ici César pour une nouvelle vagabonde accompagnée d'Hélène.
Bonjour à toi.
Nous sommes toujours dans la poésie que l'on trouve parfois dans les romans. Pas aussi souvent, il faut bien le dire, que ne l'annoncent les critiques littéraires. Observons aujourd'hui deux spécificités produites par des romanciers. D'abord, un roman écrit en vers, en 1986, et traduit 20 ans plus tard, Golden Gate de Vikram Seth. Vikram Seth est né en 1952 à Calcutta et il vit depuis les années 70 aux USA. Ensuite, le deuxième roman, ce sera La disparition de Georges Perec, 1936-1982, roman écrit sans la lettre E. Commençons par Vikram Seth et son roman Le Golden Gate, écrit en vers et traduit en alexandrin. Ironie du sort, l'alexandrin, vers de 12 pieds ou syllabes, doit son nom au roman d'Alexandre, livre datant du Moyen-Âge qui raconte les aventures d'Alexandre le Grand. Je reviendrai dans une prochaine émission sur cet acte de naissance du vers le plus utilisé dans la poésie française. Le Golden Gate est un pont de la baie de San Francisco que vous avez sûrement vu dans des films ou aux actualités tant il est imposant. L'auteur du roman éponyme, Vikram Seth, a imaginé une histoire d'amour pleine de rebondissements dans cette ville. Il a simplement écrit ce roman en vers. Le traducteur français, cité sous le pseudo de Claro, les a transformés en sonnets. Il y a donc 700 sonnets environ. Un sonnet, c'est 14 vers de même longueur, ici, donc, des alexandrins. Voici deux sonnets pris au cœur de la narration.
11-9. Aide et Penaud. Je me conduis comme un martyr. Une mauvaise idée le jour de son mariage. Il va les retrouver. Les nombreux souvenirs, le lancer du bouquet qui suivent les visages, les petits fours et la fameuse jarretière, la foule qui se presse et les mariés si fiers, le vin, le chaos, les embrassades sans fin, les chansons d'autrefois dignes de carabin, les présentations qui n'en finissent pas entre couples âgés ne sachant plus trop bien pourquoi ils sont ici et qui sont leurs voisins, l'orchestre et le traiteur qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande tout et son contraire. On surait d'un effet pour le moins salutaire. 11-10. Effrayé par tant de frivolité forcée, un hôte tristouné du nom de Kim Tarvesh semble absent de la liesse et pris dans ses pensées. Tarvesh pense à sa thèse, cet entrelac revêche, ce marais spongieux plein de deltas retors dans lequel il patauge et qui lui fait du tort. Tandis qu'autour de lui, les voix font un goulash sonore, il éprouve soudain un puissant flash et murmure. Il y a fort à parier, je crois, qu'une matrice à N dimensions serait à même de représenter les intérêts de notre société, à moins que ce soit... Ah, pauvre Kim Tarvesh! Il est économiste et sa pensée, hélas, n'a rien de fantaisiste.
Cela donne une touche particulière à ce roman, car en le lisant, on apprivoise l'oreille, on module sa respiration sur le rythme régulier de 12 syllabes par ligne. Rappelons que la poésie aujourd'hui trouve son sens, je dirais son sexe, dans la rencontre entre le texte et la voix. Cela fait dire à certains intellectuels que l'école primaire devrait faire apprendre par cœur plusieurs dizaines de poèmes aux jeunes élèves pour justement former l'oreille à la musicalité d'un texte à travers l'écriture. N'oublions pas que tout musulman doit apprendre un certain nombre de sourates par cœur. Donc apprendre par cœur un certain nombre de poèmes ne pose strictement aucun problème. Lorsqu'un roman est écrit en prose, il n'y a pas besoin de rythme, n'est-ce pas? Oh que si! C'est même la marque de style de l'auteur, le rythme. Écoutons une page de Romain Gary, 1914-1980. Page extraite de La promesse de l'aube, où, récemment arrivé à Vilno, alors en Pologne, aujourd'hui c'est Vilnius en Lituanie, la mère de l'auteur va d'appartement en appartement pour faire cesser les petites misères que font les enfants à son fils. Voici cette mère qui savait.
Ma mère allait de porte en porte, sonnant, frappant et invitant tous les locataires à sortir sur le palier. Les premières insultes à peine échangées, là ma mère avait toujours et incontestablement le dessus, elle m'attira contre elle et, me désignant à l'assistance, elle annonça hautement et fièrement, d'une voix qui retentit encore à ce moment à mes oreilles, « Sale petite punaise bourgeoise, vous ne savez pas à qui vous avez l'honneur de parler. Mon fils sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d'honneur, grand auteur dramatique, Isben, Gabriel D'Annunzio, il... » Elle chercha quelque chose de tout à fait écrasant, une démonstration suprême et définitive de réussite terrestre. Il s'habillera à Londres. J'entends encore le bon gros rire des punaises bourgeoises à mon oreille. Je rougis encore en écrivant ces lignes. Je les entends clairement et je vois les visages moqueurs, haineux, méprisants. Je les vois sans haine. Ce sont des visages humains, on connaît ça. Il vaut peut-être mieux dire tout de suite, pour la clarté de ce récit, que je suis aujourd'hui consul général de France, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, et que je ne suis devenu ni Isben, ni D'Annunzio. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et qu'on ne s'y trompe pas. Je m'habille à Londres. J'ai horreur de la coupe anglaise, mais je n'ai pas le choix. Je crois qu'aucun événement n'a joué un rôle plus important dans ma vie que cet éclat de rire qui vint se jeter sur moi dans l'escalier du vieil immeuble de Vilno, au numéro 16 de la grande Paulanka. Je lui dois ce que je suis. Pour le meilleur et pour le pire, ce rire est devenu moi. Ma mère se tenait debout sous la bourrasque, la tête haute, me serrant contre elle. Il n'y avait en elle nulle trace de gêne ou d'humiliation. Elle savait.
Radio Vassivière.
Vagabonde.
Mais, me direz-vous, tous les romanciers ont un style, un rythme, un tempo. Certainement. Mais ce qui importe quand on lit, c'est que le lecteur, l'acteur parfois, trouve un rythme en phase avec sa respiration qui est modulable, sinon il ahane et ou s'étouffe. Et vous, lecteur, lorsque vous lisez une scène intense dans un polar, vous suffoquez parfois, tout seul sur votre fauteuil, car ça ne va pas assez vite, c'est-à-dire que votre attention s'accroît, votre curiosité se décuple, l'émotion vous resserre le ventre et vous en perdez le souffle. Maintenant, parlons de Georges Perec. Trop tôt disparu, emporté par un cancer en 1982, il a écrit entre autres « La disparition », un livre lipogrammatique. Un lipogramme est un texte d'où l'on a exclu une ou plusieurs lettres de l'alphabet. C'est un exercice virtuose où l'auteur doit chercher en permanence des synonymes pour remplacer un mot, un verbe, une conjugaison par une autre. Avec la disparition, Pérec a supprimé la lettre E du roman. Il en profite pour transformer trois poèmes de Baudelaire, rebaptisés le fils adoptif du commandant Opic, en lipogramme. Écoutons Recueillement d'abord, la version originale, puis la version de Pérec.
Recueillement. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche. Charles Baudelaire. Sois soumis mon chagrin. Sois soumis mon chagrin, puis dans ton coin sois sourd. Tu la voulais la nuit ? La voilà, la voici. Un air tout obscurci, un chu sur nos faubourgs, ici portant la paix, là-bas donnant souci. Tandis qu'un vil magma d'humains au trop banal, sous l'aiguillon plaisir, guillotin sans amour, va puisant son poison au puant carnaval, mon chagrin, saisis-moi la main, là, pour toujours, loin d'ici. Vois s'offrir sur un balcon d'oubli aux habits pourrissants, nos ans qui sont partis, surgir du fond marin un guignon souriant. Apollon moribond s'assoupir sous un arc, puis ainsi qu'un drap noir traînant au clair ponant, oui, amour, oui, la nuit qui sourd du parc. Georges Pérec.
Mais, me direz-vous, avec Vikram 7, avec Pérec, on se cantonne aux cas particuliers dans lesquels l'auteur transpose un procédé poétique dans le texte. Or, il existe des romans où l'écriture de l'auteur nous interpelle parce qu'elle est poétique, tout simplement. Là, on est dans la subjectivité. Tournons-nous un instant sur les pensées de Blaise Pascal, 1623-1662. Parmi elles, on trouve celle-ci. Comme on dit beauté poétique, on devrait dire aussi beauté géométrique et beauté médicinale. Mais on ne le dit. Et la raison en est qu'on sait bien quel est l'objet de la médecine et qu'il consiste en la guérison, mais on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est l'objet de la poésie. La réponse aujourd'hui serait du bonheur, rien que du bonheur, comme le dirait un artiste après un spectacle. Je veux dire par là que la réponse à la question de Pascal, quel est l'agrément qui est l'objet de la poésie, consiste d'abord en une disposition d'esprit qui comble d'une allégresse artistique son auteur. Si c'est partagé, tant mieux. Sinon, ces élucubrations iront rejoindre l'immense cimetière des poésies sans succès, voire sans lecteur. Tournons-nous maintenant vers Emmanuel Kant. Il a défini le beau comme ce qui plaît universellement sans concept. Voilà qui permet à chaque lecteur de roman de trouver agréable, poétique, beau, sublime, etc. le texte d'un romancier. Et peu importe si d'autres lecteurs y sont insensibles, chacun est libre de son jugement esthétique, ce qui rend la tâche ardue pour les critiques.
Radio Vassivière.
Vagabonde. Voici trois courts extraits de livres que nous considérons, nous, comme poétiques. Du côté de chez Swann de Marcel Proust, 1871-1922. Nous allons débuter, et ça tombe bien, avec la page 1 de ce roman Du côté de chez Swann. Et les spécialistes appellent ça la page 1 de À la recherche du temps perdu, ou bien La recherche, tout simplement.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qui était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. Cet instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent, et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède.
Thank you. n'allons pas expliquer où est la poésie ici, mais l'univers qui se dessine entre sommeil et rêve, entre attente et réconfort, est par définition la source de toute divagation poétique. Passons au second extrait, « Les ombres errantes » de Pascal Quignard, né en 1948.
Il y a un monde où les âges ne sont pas égaux, où les sexes ne sont pas indifférents, où les rôles ne sont pas équivalents, où les civilisations ne sont pas confondibles. Il y a un monde où l'ignorant n'est pas l'égal du savant, où l'oral n'a pas la même voix que l'écrit, ni le vulgus que l'atomos, ni le barbare que le civilisé. Il y a un autre monde. Il y a un monde qui appartient à la rive du l'été. Cette rive est la mémoire. C'est le monde des romans et celui des sonates, celui du plaisir des corps nus qui aiment la persienne à demi refermée, ou celui du songe qu'il aime plus repoussé encore jusqu'au feindre l'obscurité nocturne ou qu'il invente. C'est le monde des pies sur les tombes. C'est le monde de la solitude que requiert la lecture des livres ou l'audition de la musique. Le monde du silence tiède et de la pénombre oisive où vague et se surexcite soudain la pensée. Où la chair se dresse, ou s'ouvre. Nous sommes des vivipares. Nous avons vécu avant de naître. Il s'est trouvé que notre cœur a battu avant que nous ne respirions. Nos oreilles ont entendu avant que nos lèvres découvrent l'existence de l'air. Nous avons nagé dans l'eau sombre avant que nos paupières soient ouvertes, avant que nos yeux fussent éblouis, puis aveuglés, puis vifs, avant que notre gorge soit desséchée, puis se fût suffoquée un instant, puis vint à manger de l'air, puis à imiter des mots dont l'intonation paraissait être rassurante.
Là encore, nous n'allons rien expliquer, mais l'imagination que se doit d'avoir tout écrivain, et bien sûr tout poète, laisse la porte ouverte sur des mondes réels ou supposés que nous avons connus, entrevus ou simplement envisagés, dont nous gardons une certaine nostalgie. Quignard nous le rappelle en toute simplicité. Voici pour terminer un extrait de L'amant de Marguerite Duras, morte en 1996. La scène se passe dans une chambre de Saïgon. C'est la première rencontre amoureuse entre le chinois et l'héroïne qui a 17 ans. Là, c'est la sensualité qui est à l'œuvre, comme chez cet immense poète latin qui est Ovide, contemporain de Jésus. Connu en particulier pour les amours, l'art d'aimer, les métamorphoses. Enfin, je n'oublie pas l'adaptation cinématographique de ce roman, mais le réalisateur a oublié justement la poésie pour se concentrer sur la gêne qu'éprouvent les deux personnages. Oublions la fabrique technologique des images, place au texte.
Je m'aperçois que je le désire. Il me plaint. Je lui dis que non, que je ne suis pas à plaindre, que personne ne l'est sauf ma mère. Il me dit « Tu es venu parce que j'ai de l'argent ». Je dis que je le désire aussi avec son argent, que lorsque je l'ai vu, il était déjà dans cet auto, dans cet argent, et que je ne peux donc pas savoir ce que j'aurais fait s'il en avait été autrement. Il dit « Je voudrais t'emmener, partir avec toi ». Je dis que je ne pourrais pas encore quitter ma mère sans en mourir de peine. Il dit que, décidément, il n'a pas eu de chance avec moi, mais qu'il donnera quand même de l'argent, que je ne m'inquiète pas. Il s'est allongé de nouveau. De nouveau, nous nous taisons. Le bruit de la ville est très fort dans le souvenir. Il est le son d'un film mis plus haut, qui assourdit. Je me souviens bien. La chambre est sombre, on ne parle pas. Elle est entourée du vacarme continu de la ville, embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres, il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil du trottoir. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement striées par les raies des persiennes. Les claquements des sabots de bois cognent la tête. Les voix sont stridentes. Le chinois est une langue qui se crie, comme j'imagine toujours les langues des déserts. C'est une langue incroyablement étrangère. C'est la fin du jour dehors. On le sait au bruit des voix et à celui des passages de plus en plus nombreux, de plus en plus mêlés. C'est une ville de plaisir qui bat son plein la nuit. Et la nuit commence maintenant, avec le coucher du soleil. Le lit est séparé de la ville par ses persiennes à claire-voie, ce store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous, nous percevons quelque chose de la lueur, le total de leur voix, de leur mouvement, comme une sirène qui lancerait une clameur brisée, triste, sans écho. Des odeurs de caramel arrivent dans la chambre, celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, des herbes, du jasmin, de la poussière, de l'encens, du feu de charbon de bois. Le feu se transporte ici dans des paniers, il se vend dans les rues. L'odeur de la ville est celle des villages de la brousse, de la forêt.
Pour terminer, j'ajouterai que ces auteurs sont tous les trois lauréats du prix Goncourt. Parfois, ce prix récompense des livres où la poésie tient toute sa place, toutes ses promesses. Comme nous transporter vers l'agrément qui est l'objet de la poésie, une beauté qui nous subjugue. Nous aurions pu choisir des dizaines d'autres romans, mais il est nécessaire de parler d'abord de poésie, et plus particulièrement de poésie contemporaine. Ce sera pour un autre jour.